compromis, comme on dit. Merci à vous tous et à la fois prochaine.
Merci.
Alors, j'ai adoré cette émission. C'est génial de faire la technique parce que on écoute et c'est tout. Il n'y a rien à faire. Maintenant, pour conclure, Lune, un disque qui s'appelle Plouf Plouf et qui date, j'en sais rien, c'est pas écrit. Et il faut bosser. Faut bosser.
Arrivera pas, que ça sert à rien d'essayer, que de toute façon tu sais pas
que t'es nul, t'es bonne à jeter.
Tous les matins sur le plat, ton énergie pour mieux râler, tu dis que l'on ne t'aime pas,
tu passes ton temps à bougonner.
Et dans ta pas paranoïa, tu joues la pauvrette ignorée.
Gna gna gna.
Je croyais tout tombe du ciel.
Ah, c'est lui qui va tomber sur toi.
Crac-ta-boum, paf.
Aïe, aïe, aïe. On ne peut pas tout obtenir en claquant les doigts, en tapant les pieds.
Non, faut bosser, faut bosser. Oh.
Rester au lit jusqu'à midi, à recoiffer le poil dans ma main.
Et tu oses dire que l'ennui est vraiment propre au genre humain.
Je suis là, scotché au bout du fil. Et je mange 36-15. J'ai faim.
Tu éprouves un malin plaisir à faire courir le temps pour rien.
Hein? Mais c'est la vie des villes qui me rend complètement zinzin.
Complètement zinzin, gna 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 gna, complètement zinzin.
Mais moi je croyais tout tomber du ciel.
Déjà dit, c'est lui qui va tomber sur toi.
Crac-ta-boum, paf.
Aïe aïe aïe. On ne peut pas tout obtenir en claquant les doigts, en tapant les pieds.
Non, faut bosser, faut bosser.
Ah ben c'est moi qui vous le dis, faut bosser, hein.
Et pour faire la cour,
faut bosser.
Et pour faire l'amour,
faut bosser.
Pour sourire et pour pleurer,
150 plus à bousculer.
Pour faire le mur,
et faut grimper.
Et pour se faire bronzer,
faut y aller.
Faire la pluie et le beau temps,
faut bosser, faut bosser, faut bosser vraiment.
J'ai trouvé la solution, une méthode d'auto-persuasion.
Bla 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 bla.
Positivé, positivé, je suis ce qu'on appelle un génie. Vous connaissez la méthode Pouet, à répéter au fond du lit, 100 à 200 fois la journée.
Faut bosser, faut bosser.
Mais alors, faut bosser à mort.
Il s'appelle Ibrahim Rachid Makodou. Elle, c'est Jamila la belle ou Fatima. Elles ont contre leur sein des enfants aux yeux doux, des enfants juste nés qui ne comprennent pas. Eux, bras dressés, supplient le ciel noir et cruel, leur bouche n'est qu'un cri où résonne l'effroi. La houle les secoue, les gouffres les appellent. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Nous ne pourrons pas dire que nous n'avons pas vu les villages rasés et les vieilles en larmes. les yeux hallucinés, les haillons, les pieds nus, avec dans le lointain le grondement des armes. Voilà ce qu'ils ont fui par dunes et pierrailles. Pour d'autres, c'est la fin. Qu'en savons-nous ici? La fin, sorcière noire, où faut-il donc qu'ils aillent? Ce n'est pas cœur léger qu'on engage sa vie. Voyant venir cette pure souffrance, nous laissons aboyer les bâtisseurs de haine. Les bâtisseurs de murs aux vieilles idées rances qui sentent la charogne et les brumes anciennes. Et nous baissons les yeux, cœurs et portes fermées. Que dira-t-on de nous dans 100 ans, dans 20 ans? Eux suivent leurs chimères, acharnées, harassées. Et la nuit descend sur un monde indifférent.
Chanson. Pour le concours de chansons de marche, organisé par le ministre de la guerre, pour faire plaisir aux colons. Les gars, plus de refrain cochon, va falloir y mettre un bouchon. Les gars, plus de refrain cochon, va falloir y mettre un bouchon. Puisqu'en marche le colon nous prie de ne plus chanter de saloperie. Ding, ding, digue, dis donc, si qu'on ferait plaisir aux colons. Tout le long de la route chantons pour dérouiller nos ripatons. Tout le long de la route chantons pour dérouiller nos ripatons. Une chanson qui soit à cheval dessus le chapitre de la morale. Ding, ding, digue, dis donc, ça va faire plaisir aux colons. Chantons comme il ferait bon chez nous, comme il ferait bon de planter des choux. Chantons comme il ferait bon chez nous, comme il ferait bon de planter des choux. Ou dormir auprès de sa blonde, au lieu d'apprendre à tuer le monde. Ding, ding, digue, dis donc, ça va faire plaisir aux colons. Chantons qu'il ne faut pas détester les gens du patelin d'à côté. Chantons qu'il ne faut pas détester les gens du patelin d'à côté. Parce qu'il dit je t'aime dans un autre genre de patois que le nôtre. Ding, ding, digue, dis donc, ça va faire plaisir aux colons. Chantons-nous qui ne possédons rien, qu'on a soupé d'être des chiens. Chantons-nous qui ne possédons rien, qu'on a soupé d'être des chiens. Prêt à bondir hors de la niche pour défendre le bien des riches. Ding, ding, digue, dis donc, ça va faire plaisir aux colons.
Lorsque j'ai quitté ma squaw, mon bout de ferme, dans un comté proche de Clermont-Ferrand, le shérif venait de faire construire la sienne pour y loger l'adjoint et sa maman. Sing along, Bob. Sing, sing along, Timberman. J'suis cowboy à Paname, mais c'est la faute à Dylan. De l'opéra, un flic du genre texan m'a dit tout en essuyant ses rébans. Mon gars, tu n'es pas d'ici, reprends ta selle, sinon je te fous, fils ça. En cabane, sing along, Bob. Sing, sing along, c'est mon man. J'suis cowboy à Paname, mais c'est la faute à Dylan. Salon perdu du vieux Pigalle. Le kid m'a dit mène ici, y a pas d'emploi si t'es pas partant pour nu intégral. Sing along, Bob. Sing, sing along.
m'emmène. J'suis cowboy à Paname, mais c'est la faute à Dylan. J'ai traîné mes boots des Rios de Barbès jusqu'aux prairies de l'or noir de Longchamp. Mais je n'aurais pas cru que je finirais ma vie portier dans un hôtel pour hommes blancs. Sing along, Bob. Sing, sing along, c'est mon man. J'suis cowboy à Paname, mais c'est la faute à Dylan.
Vous êtes bien à l'écoute de Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni nationalité, et nous allons animer notre nouveau rendez-vous de l'émission Et pourtant elle existe, émission consacrée à la littérature prolétarienne, qui est animée et présentée par des membres du CLOPS, un cercle culturel de littérature ouvrière, paysanne et sociale, qui publie la revue Fragment, revue de littérature prolétarienne. Alors, aujourd'hui, dans le studio, nous sommes trois. Hein, à la technique, nous avons Frédéric, du groupe La Commune de Paris, de la Fédération anarchiste, fidèle au poste. Et autour de la table, Michel, qui va nous parler des Fab Labs aujourd'hui, et moi-même, Raphaël, donc, de la revue. Alors, rapidement, un petit coup d'œil sur le sommaire de l'émission d'aujourd'hui. Nous allons tout d'abord parler d'un livre que nous venons d'éditer, hein, c'est le deuxième. Je rappelle, notre association publie la revue Fragments, mais a aussi choisi, lors de son assemblée générale annuelle de janvier 2022, de réaliser un travail d'édition. Et nous avons d'ailleurs reçu ici même le premier auteur que nous avons publié, qui est François Lebert, dont on a publié Ligne de front, à la fois des textes et des dessins, hein, puisque c'est quelqu'un qui fait un travail, c'est un ouvrier, hein, toute sa vie dans le secteur de l'automobile, et qui a fait un travail graphique également, avec des légendes, et qu'on diffuse depuis plus d'un an. Et nous avons, tout juste un mois pratiquement, hein, depuis le 12-13 octobre, nous avons publié notre deuxième ouvrage, qui s'intitule, c'est une réédition, hein, de Michel Ragon, « Nous sommes 17 sous une lune très petite », et nous allons avoir un entretien avec Michel sur cet ouvrage. Ensuite, nous parlerons donc, Michel nous présentera les Fab Labs, puis nous parlerons sommairement du colloque que nous organisons le 8 et 9 juin 2024 à la GECA, dans le cadre du centenaire de la naissance de Michel Ragon. Et enfin, pour terminer, si nous avons le temps, nous parlerons du sommaire de la 8e livraison de Fragments, revue littérature prolétarienne. Alors, je rappelle que on peut appeler le studio en faisant le 01 43 71 89 40. Voilà. Alors je vais passer la parole à Michel pour l'entretien que nous allons réaliser.
Très bien. Très bien. Alors Raphaël, oui, justement, nous sommes 17 sous une lune très petite. Peux-tu évoquer les conditions qui conduisent Michel Ragon à écrire cet ouvrage ?
Alors, il faut, je pense, c'est un préalable, si on veut comprendre à la fois la genèse de ce livre et en même temps sa thématique, hein, c'est un roman de politique fiction, comme il l'a dit à un moment donné, quelques années après l'avoir écrit. Hein. Il faut tout d'abord se placer dans le contexte de l'après-deuxième guerre mondiale, c'est-à-dire sur un contexte politique, et je dirais politique et social, c'est-à-dire c'est des années qui sont marquées par, à la suite du conflit contre le nazisme et le fascisme, cette lutte pour l'aspiration à la liberté a, suscité les aspirations des peuples colonisés à accéder eux aussi à leur émancipation et à rejeter un peu les différents impérialismes qui pouvaient les opprimer de par le monde. Ça, c'est une caractéristique qu'on va retrouver sur la plupart des territoires et qu'on va retrouver sur l'ensemble des continents, de trois continents qui sont principalement soumis à la domination impérialiste, à savoir l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Or ça, c'est un contexte, hein, on ne peut pas... C'est des gens, des peuples qui ont participé parfois physiquement au combat contre le nazisme. Eux, à leur tour, ils disent « Eh bien, nous aussi, on veut notre indépendance. » Alors, ça, c'est dès 1946. C'est, je veux dire, je suis un petit peu long sur cette contextualisation, mais c'est fondamental parce que c'est en filigrane sur tout le texte de Ragon. Hein. Dès 1946, on a le Vietnam qui va se soulever contre l'occupant français, puis ensuite ça va être contre la présence américaine, et ça va durer deux décennies pratiquement. Ce sera ensuite, en 1954, le tour de l'Algérie, qui va faire le choix de s'organiser et de recourir à la lutte armée pour obtenir son indépendance face à l'État français. En 1959, c'est la victoire, et c'est ça, c'est important aussi pour le livre, c'est la victoire qui est un véritable bouleversement. C'est la révolution cubaine, le 1er janvier 59, qui triomphe de l'impérialisme américain, et ça se passe à quelques miles de la Floride. Donc ça chamboule un peu tous les rapports de force, et surtout c'est une lutte victorieuse, une guérilla victorieuse qui génère dans son sillage un immense enthousiasme et un espoir, une espérance. Ça, on oublie un peu tout ça aujourd'hui, parce qu'après, les révolutions, toutes les révolutions pratiquement sont caractérisées par les mêmes phénomènes. Hein. Mmh. Un espoir, et puis ensuite, en cas de victoire, eh bien, il y a d'autres phénomènes qui apparaissent, de bureaucratisation et de dictature même. Hein. Mais dans les années 59-60, c'est pas ça qui domine dans la prise, à part quelques minorités et parfois d'ailleurs des libertaires qui vont avoir une certaine crainte de l'évolution future, je veux dire, ça reste assez marginal au départ. C'est plus tard qu'on comprendra que Cuba, eh ben, les comités qui ont été mis dans les quartiers, c'est pas simplement pour mobiliser la population, mais c'est surtout pour la surveiller et l'encadrer. Voilà. Mais bon, je reviens sur ça, c'est on voit Vietnam, l'Algérie, Cuba victorieux, et ça met feu à la plaine, hein, et ça suscite des émules. Alors, ainsi, on va avoir au Pérou, par exemple, on n'en parle pas toujours, mais c'est un peu l'occasion d'en parler aujourd'hui, c'est il y a un militant qui est mort en 2023, d'ailleurs, qui s'appelle Hugo Blanco, qui va organiser les paysans. Hein, essayer d'organiser. Mmh. Il va être arrêté en 1966, condamné à mort, et il y aura une campagne internationale qui lui évitera d'être exécuté, il sera condamné à l'exil, enfin, il passera toute sa vie, c'est un militant qui vient du courant marxiste, hein, mais qui va évoluer notamment sur la question de l'éco-socialisme, et là, il va essayer, toujours dans le sillage de Cuba, d'organiser les paysans, parce que lui, il a compris qu'au Pérou, c'est pas uniquement dans les villes que ça se passe, mais aussi dans les campagnes. Et on va le retrouver en même temps, il ne faut pas oublier qu'on a deux blocs. Le bloc de l'URSS et le bloc autour de l'impérialisme américain. C'est la période de la guerre froide. Hein. Donc on a deux blocs, et on a à la fois ces deux blocs qui dominent le monde, et les mouvements dans un certain nombre de pays qui se soulèvent contre le colonialisme. Et en fait, c'est en même temps ces pays qui se mobilisent de manière anticoloniale sont en même temps un terrain sur lequel s'affrontent les deux blocs. Hein, il y a un mélange des deux. Il y a une interpénétration des enjeux, l'aspiration réelle des peuples à gagner leur indépendance, et en même temps les autres, les blocs impérialistes, chacun essaye de garder une emprise sur ces territoires. Voilà.
Alors, quand Michel Ragon prend-il la plume pour rédiger ce qu'il qualifiera ultérieurement de roman de politique fiction ?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Michel Ragon, il a séjourné à Cuba en 1967. Donc, il est, en première ligne pour se documenter, pour comprendre, essayer de comprendre ce qui se passe et saisir un peu la mentalité et les aspirations de la population du peuple cubain. Donc ça, c'est pour ça, c'est ce qui va alimenter la trame de son histoire. C'est et d'ailleurs le titre du roman, hein, il faut peut-être y revenir. Nous sommes 17 sous une lune très petite. Ça vient d'où ? Eh bien, ça vient du journal de Che Guevara. C'est-à-dire, Che Guevara, à un moment, certains avaient dit Fidel Castro s'est débarrassé du Che après la Révolution. Non, Che Guevara essayait de mobiliser des populations, hein, d'exporter un peu ce qu'ils avaient fait à Cuba. Donc, on le retrouve à un moment en Algérie, etc. Et puis, d'ailleurs, c'est lui qui dit, à un moment, il faut créer 1, 2 et 3 Vietnam face à l'impérialisme. Hein. On est en pleine lutte coloniale et il s'est rendu, il est en Bolivie, où il essaye d'organiser notamment les paysans boliviens. Et il tient un journal de bord. Simplement, il va être vendu par un paysan notamment, et donc il va être en 67. Hein, il a organisé un foyer de guérilla, et il va être blessé dans un affrontement avec l'armée bolivienne, et il sera ensuite exécuté. Il est pas mort au combat, il est exécuté alors qu'il est simplement blessé, mais il faut mieux Che Guevara mort dans le raisonnement de l'état des militaires boliviens que vivant. Ce qui en fait un mythe d'ailleurs après. Donc il tenait un journal de bord, et pratiquement dans les dernières pages de ce journal de bord dans lequel Guevara raconte un peu sa marche en fait pour organiser les paysans, il dit: nous, à un moment, nous sommes 17 sous une lune très petite et nous marchons, etc.
D'accord.
Ce qui veut dire aussi qu'ils sont très peu nombreux. Hein, ils sont 17.
Oui.
Bon, ils étaient peu nombreux quand ils ont débarqué à Cuba, hein, mais comme quoi l'histoire se répète pas nécessairement. Mais le titre, ce qui montre bien l'influence et le choix de Michel Ragon, hein, c'est bien de se situer, d'ancrer son roman dans l'histoire des luttes anticoloniales qui n'ont pas commencé l'anticolonialisme, hein, ne date pas d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a certaines personnes qui considèrent que l'anticolonialisme débute aujourd'hui quand ils regardent leur nombril. C'est un peu plus complexe que ça, et on pourra y revenir. Donc On a une immersion à Cuba de Michel Dragon, et cette immersion, il la présente dans un entretien en septembre 2000, qui est donné à la revue Encre Vagabonde, où il dit voilà qu'il a séjourné plusieurs mois, d'ailleurs qu'il n'a pas pu revenir tout de suite, faute d'avion, parce qu'il y avait des problèmes de l'aviation, il n'y avait pas des lignes toujours très régulières. Et puis ensuite, il explique qu'il a pris ses distances avec le gouvernement de Fidel Castro. Hein. Il y a d'ailleurs une phrase que l'on retrouve dans le roman. Il est inutile de chasser le puma si tu laisses s'installer la panthère à sa place.
Ah oui, oui.
Voilà,
oui.
Je crois que ça donne un peu le ton de l'évolution aussi de la pensée. Voilà. Donc, une partie de la rédaction du roman a été écrite à Santiago de Cuba en août 67, puis achevée en France, à la fois en province, et ensuite à Paris. Ce qui me convient de souligner, hein, parce qu'on l'oublie peut-être un peu aujourd'hui, c'est que Cuba, à ce moment-là, est vraiment un phare pour les peuples opprimés de tous les continents, mais pas que des peuples. Hein. Mm. Je dirais qu'il y a même une forme de tourisme à la mode parmi les intellectuels français qui séjournent quelque temps sur l'île. Hein. On a eu Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Bernard Kouchner, Gérard Philippe, Agnès Varda, qui va réaliser un documentaire en 1963 qui s'intitule Salut les Cubains, Marguerite Duras, François Maspero l'éditeur, Georges Semprin, etc. Et j'en passe. Hein. C'est-à-dire tout le monde est un peu fasciné, à la fois par cette... David a combattu contre Goliath, et David est menacé par le blocus, hein, et rappelons-nous... l'impérialisme a fait un blocus qui dure enfin un peu moins depuis et quelques années, mais qui a duré plusieurs décennies. Donc l'idée, c'est de ne pas il y en a quelques-uns, hein. Ça sera je dis un peu dans l'avant-propos du livre, mais ça sera le temps d'apprendre la salsa, et après ils reviendront sous les ordres de la République, hein. Petite démarche un peu différente de Régis Debray, hein, qui, lui, va rejoindre la guérilla bolivienne. Il va être condamné à 30 ans de prison, hein, arrêté. 30 ans de prison le 17 novembre 67. Il n'en fera que 4, et après, il reviendra, et il deviendra un des proches de Mitterrand par la suite, etc. Voilà, ça, c'est pour bien appréhender tout le roman de Michel Dragon. C'est ce contexte-là où, en fait, voilà, oui, c'est ça.
Donc, étrangement, quand même, le livre « Nous sommes 17 sous une lune très petite » est un texte important de Michel Dragon, et pourtant, il est très peu connu du public. Et comment on peut expliquer ça?
Alors, ce livre donc, est remis à l'éditeur en début de l'année 68. Et en fait, il va paraître vers septembre, à l'automne. Simplement, entre-temps, il s'est passé un certain nombre d'événements en 1968, à la fois en France, hein, mobilisation de la jeunesse étudiante, grève, la plus grande grève de l'histoire du mouvement ouvrier français, hein, en mai 68, mai-juin, et puis il se passe un certain nombre d'événements dans la jeunesse de par le monde. Hein, parce que des fois, on aurait tendance à réduire 68 à ce qui se passe en France, mais il y a des mouvements en Allemagne, il y a des mouvements sur le continent américain, avec les opposants à la guerre du Vietnam, il y a des mouvements dans les facultés américaines, il y a de la répression physique dans ces années-là, hein, à Berkeley, il y a des morts des étudiants, donc il y a toute une mobilisation, ce qui va engendrer, évidemment, un certain nombre d'écrits et énormément de bouquins, ce qui fait que le livre de Michel Dragon va se retrouver noyé. En plus, je me dis, mais c'est aussi ce que dit Rago à un moment, quand il en parle, avec une couverture tristounette, vraiment, qui n'était pas faite pour attirer le regard même. Donc, il a été un peu victime d'être sorti à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il est très peu connu. Ça, j'ai pu me vérifier personnellement, là, depuis un mois, en discutant soit avec des libraires ou des personnes qui sont abonnées à la revue, qui connaissent pourtant Michel Ragon, mais qui effectivement ne connaissaient pas cet ouvrage, quoi. C'est-à-dire qu'il est un peu passé à la trappe et Michel Ragon en était inconscient. Alors, je crois que nous allons faire une première pause musicale.
Oui, tout à fait. Donc, un petit bonjour à Christian et Laurent qui nous écoutent à Publico. Donc, nous allons écouter Colette Mani, une chanteuse québécoise avec le titre Vietnam 67. Elle n'est pas québécoise, on m'a dit. Ah, d'accord. Voilà, c'est parti pour Colette Mani.
Chagrin de chlorophylle qui se prépare au loin des villes, de ce septembre paresseux qui se remue au coin des cieux, de cet automne adolescent comme une fille de 15 ans.
Un petit problème technique à régler, je repasse la parole à Raphaël.
Donc, nous allons revenir, je vais resituer un peu ce titre de Colette Mani. Hein. Le titre, c'est pas par hasard, c'est Vietnam 67, qui illustre la mobilisation anticoloniale que j'évoquais à l'instant. Est-ce que c'est bon ? Ok. Voilà. Sinon, on peut mettre. Tu peux mettre une autre. Ok. Donc, bon, on va continuer l'entretien.
Oui, tout à fait. Voilà. Alors, à l'instar de La mémoire des vaincus que Michel Ragon écrira ultérieurement, on peut donc considérer que ce livre est un roman fortement engagé.
Ah, disons que. Déjà, je vous ai un peu planté le décor, le contexte historique des années 50 et jusqu'au milieu des années 60 et même un peu plus. C'est un roman engagé et je vais simplement je pense que quelque part, tous les romans de Michel Ragon sont engagés. Hein.
Oui.
C'est-à-dire que il y a plusieurs façons d'appréhender l'engagement. Là, c'est dans ce livre, c'est un engagement militant pour une cause bien explicite. D'autres textes de Ragon, quand ils témoignent de la réalité vécue par les gens, hein, l'accent de ma mère, etc., c'est aussi un engagement, un témoignage qui reflète des réalités de classe. Hein. C'est pas, il n'y a pas un mur entre, par exemple, entre ce livre, Nous sommes 17 sous une lune très petite, et par exemple, La mémoire des vaincus, qui sont des livres qui relatent deux périodes, puisque La mémoire des vaincus, c'est l'itinéraire d'un militant révolutionnaire. Sur un siècle, hein. C'est donc une histoire militante directe, alors que là, on est un peu dans la même. Je vais vous lire la dédicace qu'en fait Michel Ragon. Ce livre, où se mêle étroitement un terrorisme de consommation courante à l'anticipation politique, et que l'on pourrait appeler roman de politique fiction, a été remis à l'éditeur à la veille de la révolution culturelle de mai 68 à Paris. Bien qu'un espoir se lève sur l'Europe depuis les événements de mai, l'auteur a préféré ne pas modifier son texte, puisqu'il demeure néanmoins, hélas, d'une déprimante vérité. Il dédie son roman d'abord aux étudiants et intellectuels américains qui n'ont cessé de protester avec courage contre la guerre du Vietnam, aux étudiants, ouvriers et intellectuels français qui ont restitué en mai et juin 68 son plus idéaliste visage à la France. Aux étudiants et intellectuels allemands, italiens, japonais, latino-américains, polonais, tchécoslovaques, etc., qui nous permettent de ne pas totalement désespérer de l'humanité. Et on voit que là, il y a vraiment dans ces lignes la synthèse de cet espoir qui est présent au moment où c'est écrit. Et d'ailleurs, on retrouvera d'autres paroles, je veux dire, ou d'anticipation, j'en parlerai tout à l'heure, qui sont peut-être moins sous le signe de l'espérance. Donc, nous allons faire la pause musicale maintenant, si c'est bon, Frédéric.
Fait divers. Un jeune homme de 18 ans s'est suicidé. Voici ce qu'il a écrit. Les hommes vivent comme des loups. Pardon à ceux que j'aime. Le premier homme serait né en Afrique il y a quelque 14 millions d'années. Est-ce de frayeur qu'en Occident nous sommes devenus tout blancs? Nous avons créé l'ONU, nous les y avons reçus. Mais l'ONU et les grands chefs d'Afrique, ils ont laissé tuer Lumumba. Mais l'ONU et les grands chefs d'Afrique, ils ont laissé tuer Lumumba. Et les chiens mordent toujours en Alabama. Et les chiens mordent toujours en Alabama. Et tout ça n'empêche personne de dormir. Et tout ça n'empêche personne de dormir. J'ai le mal de vivre. La prison et le garrotu au pays de Goya. Et tout au bout de l'Afrique, les Noirs ont le droit de crever. Et tout ça n'empêche personne de dormir. Et tout ça n'empêche personne de dormir. Des milliers, des millions, des millions, des millions, des millions, des millions, des millions de jaunes ont construit des barrages. Avec des pieds, avec des mains, avec des bras de tous les âges. Mais tout ce qu'on espère en Occident, c'est qu'une grande famine les décime. J'ai le mal de vivre. Un grand espoir, c'est Cuba. Un grand espoir, c'est Cuba. Un grand espoir, c'est Cuba. Notre chance, disent les Cubains, c'est que l'Octobre rouge ait eu lieu bien avant que nous ne fassions sauter Batista. Un grand espoir, c'est Cuba. Un grand espoir, c'est Cuba. Un grand espoir, c'est Cuba. Les journaux nous ont montré les coupables exécutés, les paysans armés, les salaires ont augmenté, les plages, les palaces sont à la populace. Un grand espoir, c'est Cuba. Un grand espoir, c'est Cuba. Un grand espoir, c'est Cuba. Mais sans planification, point d'économie stable, viable, diable. Compagnons, travaillons, compagnons. Résistons, compagnons.
Vous écoutez bien Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Donc oui, je m'excuse, Colette Mani était bien une chanteuse française née à Paris. Je repasse le micro à Raphaël.
En fait, à Michel.
Oui, c'est ça. On va continuer donc l'interview de Raphaël sur le livre de Michel Ragon. Donc nous sommes 17 sous une lune très petite, aborde une période centrale des luttes anticoloniales, c'est-à-dire la lutte de la tricontinentale. Que recouvre cette terminologie, Raphaël?
Alors, la tricontinentale, tout d'abord, c'est une lutte qui va s'effectuer sur trois continents, hein, l'Asie, l'Afrique et l'Asie. Et à partir des mobilisations dont j'ai parlé, ça va être une lutte clandestine. Hein. Et on peut dire que ça part comme point de départ. C'est en janvier 66, se tient à La Havane la première conférence de la solidarité des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. C'est en fait le premier jalon d'une coordination des peuples des trois continents qui sont en lutte pour leur indépendance nationale, certains avec des objectifs d'ailleurs socialistes, d'autres pas du tout. note simplement leur objectif, c'est de virer l'impérialisme présent. Et donc, on peut dire que l'Amérique latine a vraiment intégré, en tant que avec des représentants de ce continent-là, à partir de 1964, hein, sous la proposition de l'Algérien Ben Bella.
C'est ça.
Donc, ce mouvement de la tricontinentale, qui va se réunir plusieurs fois, alors évidemment, est toujours aussi, on l'oublie un peu, mais l'URSS qui essaye de phagocyter un peu ça, les Chinois qui sont en rivalité avec l'URSS, puisqu'en 65, il y a eu une rupture, si ma mémoire est bonne, 65, entre la Chine socialiste et l'URSS, hein, et ils se tirent un peu la bourre, donc ils essayent un peu chacun de placer des pions. Mais ce qui nous importe, quant à nous, c'est le rôle joué par des représentants de ces différents pays. Mmh. Et il y en a un qui joue un rôle très très important, c'est le Marocain Mehdi Ben Barka, ainsi que l'Égyptien Youssef El Sabaï. Mmh. Et ça va être un peu les deux, mais surtout Ben Barka, qui vont travailler pour essayer de fédérer des représentants des différents continents, hein. Quand j'ai parlé du Vietnam, mais dans ces mobilisations, on retrouve des gens des peuples, des représentants des organisations de Saint-Domingue, de la Palestine, du Congo, enfin des guérilleros qui sont en lutte en Colombie, au Venezuela, en Angola, en Mozambique. Il y a vraiment une tentative de fédération de ces luttes qu'on appelle à l'époque, enfin, l'émergence du tiers-monde. Hein,
oui, c'est ça.
On l'explique dans le livre, c'est Alfred Sauvy qui va le premier employer ce terme dans un article de l'ancêtre du Nouvel Obs, où il va comparer le tiers-monde au tiers-État, en fait, en disant ce tiers-monde, ben, c'est la même démarche que le tiers-État en France en 1989. Donc, on va parler des luttes tiers-mondistes, et on parle de la zone des tempêtes. Hein, c'est vraiment important dans... on a du mal un peu à l'imaginer des fois, mais c'est vraiment une mobilisation importante. Et ça représente vraiment un danger pour les États impérialistes. Et c'est un tel danger qu'en 1965, Ben Barka est...
assassiné.
Enlevé.
Oui, d'abord.
Devant la brasserie Libre. À Paris.
À Paris, oui.
Donc ça se passe à Paris et il va être, disparaître corps et bien, hein, c'est le cas de dire. L'enquête sur lui va durer des décennies. Hein. On sait aujourd'hui que il a été enlevé par des sbires du dirigeant marocain Oufguir. Et en fait, je peux vous lire quelques petits éléments sur Ben Barka. C'est la figure de proue du mouvement anticolonialiste au Maroc. C'est un opposant de gauche, socialiste et opposé à la monarchie marocaine.
Oui.
Dès 43, il va être engagé et en 45, il va être à l'initiative de l'organisation d'un parti nationaliste qui sera à l'origine de la proclamation d'indépendance du Maroc. Il va être président, etc. Et donc, enlevé le 29 octobre, à partir du moment où il était vraiment impliqué dans la préparation de la conférence de la tricontinentale qui devait avoir lieu à La Havane en 66. Il est enlevé le 29 octobre 65, donc quelques mois avant, devant la brasserie Lippe à Paris. Et l'enquête, qui va durer des décennies, révélera l'implication d'hommes du contre-espionnage français, deux truands parisiens, deux militaires de haut rang, proches du roi Hassan II du Maroc. Mmh. Le corps de Ben Barka ne sera jamais retrouvé.
Oui.
Il y a un témoignage ultérieur qui évoque son transfert au Maroc, la torture et la dissolution du corps dans un bain d'acide. Et ça, c'est on retrouve ça pour d'autres militants anticolonialistes qui seront ensuite exécutés de la même façon, et le corps dissous dans un bain d'acide. On a fait un glossaire à la fin du livre où on resitue un peu un certain nombre de ces personnes qui se sont engagées. Mmh. Donc voilà. Et par rapport à la tricontinentale, je voulais simplement dire citer un écrivain qui n'a rien de révolutionnaire, mais qui écrit c'est ce que relate Michel Ragon dans une lettre à Françoise Ragon écrite en septembre 68, et il dit: Robert Sabatier me dit, dans 10 ans, on dira, tu as été le premier à faire le roman de la lutte tricontinentale et personne ne s'en est aperçu. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, un livre qui va passer à la trappe, mais pourtant un livre qui est important si on veut comprendre cette période du combat de ces trois continents. La question n'est pas de savoir ce que c'est devenu après, hein. On a fait allusion au puma et à la panthère.
Après, oui, c'est ça.
Et au néocolonialisme, etc. Mais là, il y a un soulèvement fondamental, quoi. Il y a 20 ans qu'on ne peut pas occulter. Voilà.
Alors, si on cerne bien, là, maintenant, d'après tout ce que tu viens de nous expliquer, les événements historiques qui constituent le contexte de cet ouvrage, mais en fait, quelle est la trame romanesque?
Alors, bon, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes, c'est un roman de politique fiction, mais qui s'abreuve au cours réel des événements historiques, hein. Le personnage principal, c'est Charles, qui a adopté un pseudonyme qui est Carlos. Hein, c'est quelques années plus tard qu'il y aura un terroriste qui va prendre le même nom. C'est un Français, donc, et c'est lui qui est en fait le narrateur. Et je dirais qu'il y a un moment donné exprime aussi le point de vue, je pense, de l'auteur de Michel Ragon. Enfin, c'est une interprétation personnelle, mais bon, quand on connaît un petit peu l'itinéraire de Michel Ragon, hein, je rappelle par exemple que Thierry Maricourt, on l'a invité ici,
oui,
a sorti un livre qui s'appelle Une rage de lire, qui
oui,
est consacré à la jeunesse de Michel Ragon. On retrouve un certain nombre de points de vue, à mon avis. Alors, il est d'origine paysanne, ce Charles devenu Carlos, et en fait, très jeune, il va être en contact avec la résistance. Je rappelle que, très jeune, à Nantes, Michel Ragon aura un contact avec la résistance pour des questions de, puisqu'il travaille à la préfecture, de faux papiers, et qu'après, il va retourner à la campagne pour un peu ne pas être recherché, quoi. Arrêté, en tout cas. Même si ça dure peu de temps, c'est un fait qui est manifeste. Donc, c'est ce Carlos, ce Charles, il a été en contact avec les résistants. Puis ensuite, il va faire la guerre d'Indochine. Ce qui va déjà lui poser un certain nombre de problèmes en tant qu'ancien résistant, c'est-à-dire au service de l'État français pour faire une sainte guerre qui va se terminer fort heureusement par la déroute et notamment à la bataille de Dien Bien Phu. Ensuite, Charles va être mobilisé en Algérie, et il prend conscience que l'État lui fait jouer un rôle qui est aux antipodes de ses propres valeurs, et en tout cas de celles qu'il avait tant que résistant et qu'humaniste. Je cite un extrait, une phrase. En Algérie, là, je pris conscience d'être un bourreau, je désertais. Donc, à partir de la guerre d'Algérie, c'est le point ultime, la rupture, avec, je dirais, une vie classique et un engagement dans la clandestinité. Et ça, tout au cours de la narration, ça va être une constante. C'est-à-dire, Charles vivra toute une vie dans la clandestinité, au service d'une lutte anticoloniale. Et voilà, je ne veux pas tout révéler.
Ah ben non, mais, on va le lire.
Voilà, non, il faut le lire, mais
ah oui, il faut
je
le
pense
lire,
que...
Oui.
Pas mal de gens qui vont découvrir quand même un aspect assez intéressant et je pense inattendu, et puis surtout une période historique. Et donc, dans le roman, il va passer son existence en tant que militant d'une organisation secrète qui est l'Organisation Insurrectionnelle du Tiers-Monde, OITM. C'est un peu le... Voilà. Et il a aussi, il y a d'autres personnages, hein, c'est ses compagnons, ils ont diverses origines. Ceux qui sont engagés dans le mouvement depuis longtemps... Par exemple, Mimo, qui est un Italien, c'est un ancien maçon qui s'est d'abord réfugié en Argentine. On a Rolf, qui est un Autrichien, qui était mécanicien. C'était un catholique de gauche que l'on retrouve. Et puis on a un qui est plus jeune, qui s'appelle Henri, qui devient Enrico, parce qu'ils changent souvent, selon le pays où ils sont envoyés, d'identité, de physionomie. Mimo est un Italien avec de grandes moustaches, et comme on repérerait facilement, il doit fréquemment la raser. Et Henri est devenu Enrico, lui est un jeune Français, un intellectuel bourgeois qui a suivi des études et a fait Polytechnique. Alors, je ne sais pas si Régis Debray a fait Polytechnique, mais on peut imaginer certains jeunes Français intellectuels. Ce que note aussi, d'ailleurs, c'est que, paradoxalement, c'est que beaucoup des gens qui sont engagés dans cette lutte, dans ces mouvements, Ragon constate que beaucoup de ceux qui viennent des pays colonisés sont des intellectuels, qui ont fait des études, voire des pour l'un d'entre eux, syndicalistes, hein, alors que d'autres qui viennent sont plutôt d'amis ouvriers, qui viennent des pays, on va dire, occidentaux, classiques ou impérialistes. Alors, il y a aussi, bien sûr, la place aux amours dans cette histoire, mais qui sont à l'image d'un contexte qui est celui de la clandestinité, donc des amours fugaces, fragiles, et à l'image un peu du combat de la lutte armée, c'est-à-dire où il n'y a pas d'expérience et de choses, on ne se situe pas dans la construction de quelque chose qui peut durer, tellement on est marqué par l'immédiateté du combat. On est un peu quelque part, enfin, je fais peut-être un parallèle un peu rapide, mais un peu dans ce positionnement qu'avaient les militants bolcheviques, un peu tout à la révolution et rien à côté. On est des militants révolutionnaires professionnels.
Mais les brigades rouges, tout ça, oui. Ils ont tous le même engagement, c'est-à-dire d'avoir aucun lien.
Voilà, aucun lien.
Aucun lien affectif.
Pour ne pas donner prise.
Pour ne pas donner prise, voilà, c'est ça.
Et voilà. Et alors, donc, ces compagnons, nous allons les retrouver sur des fronts de lutte. Hein. Et à la fois, c'est pas des mouvements, la trame romanesque, c'est pas des affrontements armés à tous les coins de page, hein. Pas du tout. Hein. Mais c'est des témoignages sur les oppressions, ce que vivent les endroits où Michel Ragon nous emmène. Hein. Alors, il va nous emmener en Afrique, en Indochine, au Cuba, au Mexique, en Palestine, en Égypte, mais aussi, et c'est aussi important, nous allons aller à Chicago, avec des contacts avec le milieu syndical américain, à New York, dans le quartier d'Harlem, parce que là aussi, il y a d'immenses attentes qui viennent des mobilisations de la cause noire, hein, mais avec tout ce qui va se mettre en place autour des Black Panthers, et l'apparition d'un mouvement de résistance noire. Donc ça c'est aussi fondamental, et on voit que cette lutte est faite dans un esprit de camaraderie au-delà des races. Et donc c'est ainsi que on va côtoyer des figures tutélaires des luttes de libération nationale. J'ai évoqué Ben Bella pour l'Algérie, Ben Barka, Ben Bella qui va faire le mouvement de lutte contre la France et qui sera ensuite évincé du pouvoir. Hein. Ben Barka dont j'ai parlé, pour l'Indonésie, Sukarno, José Marti pour continent d'Amérique latine, Patrice Lumumba, mais aussi Malcolm X. C'est-à-dire que vraiment, on a des... Je veux dire, c'est pas un mouvement sur les insurrections militaires, mais on a vraiment accès à une documentation historique, hein, qu'on a un peu complété en fin d'ouvrage. On a ajouté un avant-propos que j'ai rédigé, mais qu'on a discuté collectivement au sein du Cercle culturel de littérature ouvrière et paysanne, hein, puisqu'on fonctionne en tant qu'équipe. Hein, donc, à la fin, on a fait un glossaire pour résumer l'itinéraire de, par exemple, Patrice Lumumba, hein, qui est un homme d'État colonais.
Ah oui, c'est intéressant, ça. Oui, vous avez une reprise.
Principale incarnation de l'indépendance du Congo belge. Hein, et il va être ensuite Premier ministre, enfin, et suite au coup d'État de Mobutu, parce que ce qu'on constate aussi, c'est il y a des trucs qui sont vraiment d'une actualité incroyable. On voit en ce moment plein de coups d'État dans plusieurs pays. Burkina Faso, au Niger, etc. Mm. Au Mali, des renversements. Là, il y en a foison déjà. Et Mobutu, il va arrêter Lumumba, qui va être un des artisans de la lutte anticoloniale. Il va être arrêté, transféré au Katanga, proche du pouvoir belge. Et avec ses compagnons d'armes, il va être torturé, fusillé, leur corps dissous dans l'acide. Ceci, le 17 janvier 61. C'est-à-dire que et là, on a au cœur à la fois le fondement de la lutte anticolonialisme, mais aussi c'est fondamental de virer les impérialismes. Et qu'est-ce qu'on met à la place si c'est pour être remplacé par des sbires qui adoptent des politiques néocolonialistes. Et voilà. Après, il y a des informations. On a fait une fiche aussi dans le glossaire sur Mancom X, hein, qui est sur son évolution, hein, où à un moment, il va être proche et même membre de la Nation de l'Islam. Et puis ensuite, il va évoluer et il va situer le combat pour l'émancipation des Noirs aux États-Unis dans le cadre plus global de la lutte des peuples, en rejetant désormais le racisme anti-blanc. Et il va fonder un mouvement politique. Il sera assassiné, comme on le sait. Il y a l'itinéraire de Mao Tse-Tung, hein, qui, lui, mourra dans son lit après avoir mis en place un régime dictatorial. José Marti, qui là, c'est en 1853, qui est un homme d'État cubain, hein, un artisan de l'indépendance, et il va être tué, lui, à la bataille de, en 1895. Hein, mais toujours dans l'imaginaire cubain, c'est une figure forte. Bon, après, on a au Cameroun Félix Roland Moumier, qui sera, lui, exécuté. On a Kram Nkrumah au Ghana, etc. Norodom Sihanouk, Soukarno, Sékou Touré. Voilà. Donc, on a un véritable panorama de ces figures tutélaires. Voilà. Je peux te. Voilà, pour moi, j'en ai fini là.
Alors, fréquemment, Michel Ragon distille dans ses écrits des références autobiographiques, explicites ou non. Est-ce que c'est le cas ici aussi ?
Absolument. On a par exemple Charles, donc, qui évoque sa jeunesse. Il dit, voilà, j'ai aimé la lecture. Et je cite, il a lu en pagaille Jules Verne, Pierre Loti, Victor Hugo, Jacques London. À mon avis, ça fait quand même référence à l'attrait pour la lecture de Michel Ragon. D'ailleurs, Loti, au passage, il l'exécute en disant, d'abord, je l'ai lu, ça m'a fasciné. Enfin, c'est le personnage. Hein. Charles dit, Loti m'a fasciné. J'imaginais le Japon, parce que comme il était marin, il dit, un jour, quand je suis allé au Japon, j'ai compris qu'il n'avait pas débarqué pratiquement du port,
oui,
et qu'il avait fait un portrait exotique complètement
de
en dehors
sa cabine,
du,
quoi.
Il dit Loti n'avait rien vu, rien compris, mais en plus il exécute Loti parce que quand il trouve que en septembre 83 dans le Figaro il y a un texte de Pierre Loti qui savoure, c'est le sens propre, qui se réjouit du massacre des Annamites. Et en fait, il me dit, Loti, en fait, il est contre le colonialisme quand c'est des Anglais qui l'exercent, mais quand c'est un Français, voilà. Donc, en plus, on a aussi des petites indications, ici ou là, il évoque la mer. Il évoque une fugue à La Rochelle. Quand même. Le Vendéen Michel Ragon n'a pas choisi ce... Voilà. Et puis après, il y a aussi des choses aussi, indépendamment du caractère qui peut être plus ou moins autobiographique, il y a aussi quand même toute une réflexion sur le monde, sur les pensées. C'est pas un plaidoyer pour l'insurrection armée, hein. C'est un témoignage de ce que ça a été, de ce que ça a impliqué.
Oui, c'est ça.
Mais il y a une réflexion sur la finalité de tout ça. On va mourir pourquoi, pour qui. Et puis il y a une espèce de caractère prémonitoire. Je cite, hein, à un moment, c'est Charles qui parle, Carlos. Après la lutte des classes, Après cette des nations prolétaires contre le monde capitaliste, va-t-on évoluer vers une lutte des races? C'est ce qui s'interroge à un moment donné. Mmh. Voilà, il y a des choses qui me semblent intéressantes à noter.
À noter, tout à fait. Comment on pourrait conclure, Raphaël, sur cette présentation, alors?
Eh bien, je pense que, j'ai essayé de traduire, hein, c'est un engagement total dans le combat. Les personnages sont engagés dans la lutte anti-impérialiste, mais ça n'a rien de fanatique. À la fois pour la lutte armée, mais le doute demeure. À propos de la nature humaine, le sens de l'engagement, la finalité de la lutte, les possibles lendemains qui déchantent. J'ai peut-être le temps de lire extrait.
Oui, oui.
Voilà, parce que il y a vraiment des résonances. Je veux dire, c'est pas rien n'est acquis, quoi. Il n'y a pas de certitude comme on a pu parfois en voir ou en entendre. Les beaux temps des premiers jours de la Révolution, printemps du 14 juillet, printemps d'octobre 17, printemps de la Commune de Paris, printemps de la Catalogne libertaire, printemps de Cuba, et super printemps des périodes pré-révolutionnaires. Si l'on m'avait donné à choisir, j'aurais préféré être Jean-Jacques Rousseau que Robespierre, Marx que Lénine, Gandhi que Nehru, tout pourri en ce monde où se déchète, où se dessèche. Et toujours la même question, la même absence de réponse. Toujours la même stupeur devant ce fait que personne ne semble voir. Pourquoi ces tortures, ces massacres, ces tueries, ces prisons? Pourquoi tant de méchanceté gratuite? Pourquoi tant de bêtes fauves sont-elles en liberté? Les hommes ont tué sur la planète toutes les bêtes fauves afin de rester seuls, super fauves, plus féroces que les tigres dont ils disent, les hypocrites, que c'est le plus cruel des animaux. Aucun tigre n'a brûlé vivant d'autres tigres. Aucun tigre ne se sert d'instrument de torture, ni d'arme qui tue de loin. Vertige, folie. Aucun tigre n'a crucifié un autre tigre, etc. Donc, vous voyez, il y a toute une réflexion, je dirais une pensée, une éthique, une philosophie, un doute sur à la fois le sens de l'engagement et, je dirais, la condition humaine au sens large. Parce que là, il y a quand même des phrases, si on les met dans le contexte actuel, je veux dire,
on
peut
fortement
se dire que le doute, il faut parfois le mettre en principe fondamental. Voilà, je voudrais simplement signaler, pour terminer, que l'édition de ce livre, ça a été un travail d'équipe autour, avec une couverture réalisée par Éloi Valla, un auteur de bande dessinée, qu'on peut trouver à Publico, qui avait déjà aussi illustré la couverture d'une des revues Fragments. Il y a une bibliographie qui a été faite par Patrick Verdun, qui est résident en Vendée, qui est un ouvrier qui a une connaissance fabuleuse de tous les écrits, mais tout ça on en reparlera à notre colloque, et un travail d'équipe de relecture, la maquette Gilles, une équipe de relecture et un vrai travail d'équipe pour réaliser ce livre, que on peut dire qu'il est complètement autogéré, et y compris sans aucune subvention, et y compris dans sa distribution. Voilà, tout 293 pages pour une période d'histoire romanesque pour 12 euros, à mon avis, ça vaut pas un coup de s'en priver.
Tout à fait.
Donc, je crois que nous allons faire une petite pause musicale, si tu veux bien, Frédéric.
Tout à fait, nous allons écouter maintenant Rosalie Dubois avec le titre « Faut vivre ».
Les tropiques, les petits fous, les gardes. Manger enfant et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis des milliers. milliard d'étoiles qui rient. Faut vivre malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus de 16 ans et sur l'espoir un chèque en blanc. Faut vivre malgré le cœur qui perd le nord au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore. Qui veut partir et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous ces morts en goguette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à coco et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. L'idéal du jeune temps qui s'est usé au mur du temps et par d'autres pris en chantant. Faut vivre malgré qu'en se tournant vers le passé on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé. Faut vivre malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans le naufrage. Le cœur aveugle qui file en douce sur le fil du présent qui fuit. Faut vivre malgré qu'en nous un enfant mort s'y peut parfois remuer encore comme un vieux rêve qui agonise. Faut vivre malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœurise sans. Qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous offre à voir jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir. Faut vivre malgré qu'à tous les horizons comme un point d'interrogation la mort nous regarde d'un œil ivre. Faut vivre malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour. Et bien qu'on la sache rater, faut vivre.
Oui, alors nous allons reprendre. Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. La radio sans Dieu ni maître ni nationalité, à l'écoute de l'émission, et pourtant elle existe, cette littérature. Alors nous avons eu une communication téléphonique, Frédéric a eu une communication téléphonique avec Patrick, un auditeur, qui posait la question où se procurer le livre de Michel Ragon. Eh bien, s'il est en région parisienne, on le trouve à Publico ou dans d'autres librairies militantes, on va dire. Si non, on peut le trouver dans certaines librairies hors la région parisienne, mais sinon, il suffit d'écrire à CLOPS, hein, CCLOPS, 79 rue du Docteur Roux, 79 rue du Docteur Roux, 95 130, Franconville-Lagarenne, avec un chèque de 12 euros, le port est gratuit, à l'ordre de chèque au nom de CLOPS, CCLOPS. Voilà, et merci pour... c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, comme j'ai oublié de préciser dans la réalisation de cette édition, le soutien de Françoise Ragon, évidemment. Voilà, nous allons donc maintenant parler des Fab Labs.
Voilà,
Qu'est-ce que c'est que ça?
Donc là, on passe sur des choses plus techniques et plus actuelles, on va dire. Donc les Fab Labs, en deux mots, ce sont en fait des laboratoires de fabrication. C'est plus joli Fab Lab et c'est plus poétique. En fait, ce sont des lieux où on peut, à partir de beaucoup de machines, et particulièrement de machines numériques, mais pas que, fabriquer, créer, découvrir et en fait exercer tous nos talents, que ce soit en écriture, en littérature, en illustration, en peinture, en photo ou dans tout ce qui nous fait envie. Donc les Fab Labs en France, les premières initiatives sont lancées à partir de 2009. C'est pas très très vieux. Ça démarre à Toulouse en 2009. Ensuite, ça s'étend en 2011. Après, il y a Cergy-Pontoise. Après, il y a Rennes, Lannion, Montpellier en 2012. Et maintenant, la France est le pays dans lequel on trouve le plus de Fab Labs. Donc, je vous conseille... Alors déjà, je vais vous expliquer effectivement exactement en détail un peu plus ce que c'est. Mais d'ores et déjà, je vous conseille de regarder dans vos villes, dans vos régions... en tapant Fab Lab sur ordinateur, sur Google, et vous allez voir que vous aurez effectivement ces lieux qui sont tout près de chez vous et qui vont peut-être vous pouvoir vous aider à créer. Donc, les Fab Labs sont basés sur des principes d'ouverture et de collaboration. Ils s'appuient sur des machines de fabrication numérique et des réseaux qui permettent de s'échanger des fichiers dans le monde entier. Par exemple, un objet peut être conçu dans un Fab Lab, fabriqué dans un autre et amélioré dans un troisième. Grâce à des interfaces informatiques simplifiées, ergonomiques et de plus en plus interopérables, il devient plus facile pour des usagers non spécialistes, c'est-à-dire nous tous, ou quasiment, de prendre le contrôle d'outils techniques pour écrire, illustrer, maqueter, imprimer son propre livre en ligne, par exemple. L'appropriation, en fait, c'est tout à partir de logiciels libres qui nous permettent de pouvoir faire tout ça. Alors, les missions, on peut accéder et utiliser le Fab Lab pour fabriquer à peu près n'importe quoi, dès que cela ne nuit à personne. Donc, en fait, c'est la porte ouverte complètement à toute créativité. On doit simplement apprendre à fabriquer nous-mêmes ce qu'on veut fabriquer, à ne pas le déléguer à quelqu'un, et on doit partager l'usage du lab, donc du laboratoire, avec d'autres usagers et utilisateurs. Et c'est là où ça devient vraiment très intéressant, parce que effectivement il y a une notion d'éducation dans les Fab Labs. Donc la formation dans le Fab Lab s'appuie sur des projets et l'apprentissage par des pairs. On prend donc part à la capitalisation des connaissances et à l'instruction des autres utilisateurs. Donc, c'est très intéressant d'arriver dans des lieux où il y a plein de machines où on comprend rien du tout comment ça marche, mais où on sait que ça pourrait nous aider, et d'avoir là des pairs qui sont là et qui vont pouvoir nous aider, mais nous aider à comprendre comment ça marche, mais pas faire à notre place, surtout. Voilà, c'est ça qui me paraît important. Donc, au niveau de la responsabilité, les usagers des Fab Labs, dont je fais partie, hein, parce que je vous dirai à la fin que moi, je me suis inscrite effectivement au Fab Lab de Montreuil. Donc, on est responsable de la sécurité. On doit savoir travailler sans mettre en danger d'autres personnes, ni endommager les machines. On est responsable de la propreté. Il faut laisser le lab plus propre qu'on ne l'a trouvé, et aussi on s'engage sur la continuité, c'est-à-dire il faut contribuer à entretenir et réparer les outils, à gérer les stocks de fournitures et à rendre compte des incidents. Donc c'est un rôle, enfin on est en complète autonomie, mais avec d'autres, et on prend des responsabilités. Il y a une grande diversité des activités proposées ou qu'on peut faire. 81% des structures de Fab Lab proposent des activités de formation ou d'initiation. Elles organisent aussi des événements, donc c'est là où ça peut être intéressant, parce qu'elles organisent aussi des événements ou des expositions qui peuvent prendre une grande place dans la vie de ces lieux. Par exemple, le Fab Lab de Montreuil est relié à tout un réseau de créateurs sur Montreuil, et il y a des échanges permanents entre eux et des expositions qui sont instaurées, et entre autres ils ont participé aux portes ouvertes de Montreuil il n'y a pas très longtemps, là, à l'automne. Au quotidien, les activités sont beaucoup liées à la réparation, à la fabrication ou au bricolage, et elles occupent une grande partie du temps. Et surtout, l'accueil du jeune public est par ailleurs favorisé et encouragé. Voilà. Les Fab Labs proposent souvent des activités plus directement aussi professionnelles, parce que effectivement, ils offrent des locaux dans lesquels des résidents permanents peuvent s'installer pour réaliser leur fabrication. Ce qui évite à ces gens d'ouvrir un local avec toutes les charges que ça peut représenter. Là, ils travaillent en fait dans les Fab Labs, au milieu de tout le monde, donc ça veut dire qu'il y a un enrichissement assez permanent des gens, en fait, et ils peuvent monter leurs expositions, et en même temps, on peut les accompagner dans le projet, et c'est souvent des travaux de prototype, en fait. C'est ça qui est aussi intéressant, et de créativité. En fait, c'est un espèce de... C'est un mot un peu à la mode du co-working, mais c'est en fait cette notion de travail ensemble, sans hiérarchie, sans personne pour nous dire ce qu'il faut faire ni nous donner des ordres, mais en créativité tout le temps direct, voilà. Et pour le Fab Lab, c'est intéressant parce qu'en même temps ils peuvent louer cet espace, une partie de cet espace, et ça peut leur faire aussi des sources de revenus, voilà. Alors, au niveau des matériels qui sont proposés, donc 93% des lieux interrogés, parce qu'il y a eu une enquête qui a été faite sur les Fab Labs, donc 93% des lieux interrogés déclarent posséder une imprimante 3D. C'est pour ça que moi, je me suis retrouvée dans le Fab Lab. Parce qu'en fonction des tableaux que je suis en train de créer, mon prof de peinture m'a dit, ce serait peut-être bien que tu aies dans un Fab Lab, parce que ce que tu fais là avec ton cutter et ton ciseau ta photocopie, c'est pas d'une qualité géniale. Donc, il faudrait peut-être que tu passes sur les imprimantes 3D. Il y a aussi des découpeuses laser. Donc, moi, par exemple, j'ai rencontré des gens qui travaillent sur la fabrication de bijoux, ou qui travaillent sur la fabrication de boîtes, ou qui travaillent aussi sur des textes imprimés. Et c'est vraiment très intéressant, la créativité qui est développée là. Donc, les imprimantes 3D, par leur capacité à fabriquer rapidement un petit objet et à rendre visible le passage, alors c'est un peu technique, du fichier aux atomes, voilà, sont des machines très utiles pour faire la démonstration auprès du grand public de la logique liée à la fabrication numérique personnelle, voilà. Tous les Fab Labs n'ont que des logiciels libres, voilà. Donc,
quel est j'ai peut-être pas compris, le financement de cette structure ?
Alors, pour beaucoup, ce sont des associations. Moi, le Fab Lab de Montreuil, c'est l'association La Fabrique de l'Espoir, parce qu'ils sont au pied du quartier de l'Espoir, à Montreuil. Mais ça peut être aussi, il y a un autre Fab Lab à Paris, qui est dans la cité à la Villette, la cité de l'industrie, tu sais, voilà. Ça peut être aussi dans des universités ou dans des écoles. Les lieux sont très divers. C'est pour ça que si vous voulez aller dans les Fab Labs, renseignez-vous un peu auprès de chez vous, parce qu'il y en a plein, il y en a partout, en fait. Donc, renseignez-vous sur un peu... ce qu'il y a auprès de chez vous. Mais les structures...
le financement, c'est les cotisations?
Les cotisations, en fait, sont très faibles. Au Fab Lab de Montreuil, par exemple, c'est 10, 15 ou 20 euros par an, selon si on a envie de s'investir dans la vie du Fab Lab ou pas. Après, pour pouvoir utiliser les machines, donc telles que l'imprimante 3D, la découpeuse laser, les brodeuses numériques, tous les appareils pour travailler le bois, le tissu, le papier, le carton, voilà. Il y a énormément de machines, pour beaucoup numériques. Donc, là, on a des formations obligatoires. C'est-à-dire qu'on doit être... le Fab Lab s'assure qu'on a bien été formé avant d'aller sur les machines. Et au Fab Lab de Monteuil, on paye la formation qui dure en général 2 heures et demie, soit 5 euros selon la machine, soit au plus haut tarif 10 euros. Voilà, par exemple, l'imprimante 3D, c'est 10 euros. Voilà. Donc après, on est certifié. Voilà, on a une certification qu'on a été formé sur cette machine, et après on se débrouille tout seul. C'est là où ça se complique, parce que quand même les machines, enfin pour moi, elles sont très impressionnantes en fait. Alors il y a des bénévoles et des salariés. À Montreuil, il y a 3 ou 4 salariés en fait dans l'association qui sont là et qui sont dans les lieux et qui viennent nous aider si on est un peu perdu. Mais ils insistent beaucoup pour dire en fait c'est un travail en autonomie. En fait, on est sur les principes de l'éducation populaire, en fait.
C'est rattaché à un secteur éducatif, parce que alors, payer, ça peut les locaux, être attaché... payer les locaux ou payer les machines, c'est pas les cotisations qui peuvent suffire.
Non, mais ça peut être attaché à des lieux d'éducation. Pour beaucoup, il y en a qui sont rattachés à des lieux d'éducation, et en fait, c'est surtout pour aussi les jeunes, c'est-à-dire pour les aider dans leur développement, soit scolaire, soit universitaire, soit professionnel, à s'habituer aux machines. Et moi, j'ai vu des profs au Fab Lab. Il y a des profs qui viennent, des profs du secteur technique, qui viennent apprendre à faire des choses, à faire des objets sur les machines pour pouvoir ensuite travailler avec leurs élèves dans leur classe et inciter leurs élèves à venir, en fait. Mais c'est pas du tout ni universitaire ni scolaire. Voilà, c'est ça qui est quand même effectivement très, enfin, que moi je trouve très très intéressant. Hein. Alors, je vous encourage vraiment à y aller parce que je pense que au CLOPS, on est tous des gens, soit en littérature, en poésie, en photographie, en peinture, mais peut-être aussi en sculpture, des gens qui sommes très créatifs, et quelquefois on peut avoir besoin de trouver des machines pas chères. On va pas tous s'imprimer, enfin s'amuser à s'acheter une découpeuse laser ou une imprimante 3D. On peut pas de toute façon. Hein. Donc tous ces outils peuvent favoriser beaucoup l'art brut, et j'en reviens aux premières interventions que je faisais, c'est-à-dire que c'est des lieux que moi je trouve très très agréables, très conviviaux, où on apprend plein de choses et qui sont peu cher, peu onéreux, et où on peut être créatif à bon compte. Voilà. Il faut par contre aimer l'informatique, parce que toutes les machines sont quasiment numériques. Voilà.
Tu as terminé, Michel ?
J'ai terminé.
Bon, je crois qu'on va supprimer une pause musicale, parce qu'il nous reste quelques minutes. Donc effectivement, personnellement, moi je ne connaissais pas du tout, Et tu évoquais à la fin l'art brut.
Oui.
Je pense qu'on sera amené à en rediscuter parce qu'il y a aussi des pistes qu'on avait évoquées.
Oui.
Par rapport à Lausanne et d'autres choses.
Tout à fait.
On aura peut-être le temps de travailler. Oui. Dans les semaines qui viennent. Mmh. Alors, je vais rappeler un peu le projet qui nous mobilise en ce moment, hein, du colloque pour le centenaire de la naissance de Michel Ragon, en juin 2024, 8 et 9 juin à l'AGK à Paris. Alors, on est en train de préparer, ça serait donc sur 2 jours, et avec l'idée d'avoir évidemment des intervenants, à la fois des gens, je dirais, qui ont pris la plume, qui sont autodidactes, et d'autres personnes qui viennent du monde universitaire, mais qui manifeste un intérêt réel, sérieux et continu pour la littérature prolétarienne. Je pense par exemple à Sarah El-Matari, qui est maîtresse de conférences à Lyon, que nous avions invitée ici il y a quelques mois. Il y aura aussi une salle qui sera réservée à la projection de films qui traitent, qui ont trait à la vie, à l'engagement, à l'œuvre de Michel Ragon. On aura un service librairie, bien sûr, et la finalité sera aussi, au-delà de la réussite de ce colloque, sur lequel on a vraiment commencé à travailler. D'ailleurs, un dépliant sera normalement un flyer, comme on dit aujourd'hui, sera disponible dans quelques semaines avec le programme complet, les moyens de nous soutenir et les différents rendez-vous. Ça, c'est ce qui mobilise un peu tout le monde dans notre association. Et également, à court terme, là, pour début janvier, on a un premier rendez-vous qui est la parution du numéro 8 de Fragments, revue littérature prolétarienne. Alors, je pense que j'y reviendrai en détail dans le sommaire au cours de l'émission du mois de décembre. Parce que, bon, ce que je peux déjà dire, c'est qu'il y a un dossier qui est consacré, enfin, tout est pratiquement bouclé, hein. Ça va faire, il y a simplement le travail de relecture qui implique 6 personnes, hein, sans lequel tout ça n'aurait aucune réalité. Il y a le travail de relecture qui est en cours, qui est en bonne partie achevé, avec un dossier important sur Éric Louis, que certains et certaines d'entre vous connaissent, hein, qui est cordiste, hein, à la fois qui a écrit... enfin, il y a tout le dossier, à la fois sur ce qu'il a écrit, sur ses témoignages. Personnellement, j'ai participé à ce petit dossier, ben, modestement, parce que c'est surtout Robin, un compagnon de l'équipe, qui a géré l'entretien et la présentation d'autres ouvrages. Moi, j'ai lu personnellement « On a perdu Quentin ». C'est un petit livre qui vraiment... c'est un uppercut. Hein. Oui. C'est le travail de cordiste dans les silos. Hein. Et Quentin est disparu à l'âge de 21 ans. C'est vraiment... d'ailleurs, c'est... Il a un style, enfin je pense que j'espère qu'on aura l'occasion de l'inviter, Éric Louis, dans cette émission. Et on aura bien sûr la suite de l'étude que réalise depuis le début de l'aventure de Fragments, la littérature prolétarienne de 1970 à nos jours, hein, de Philippe Genest, qui est vraiment une contribution qui complète le travail d'Henri Poulaille il y a pratiquement un siècle, hein, avec le Nouvel Âge littéraire, hein, qui présentait, qui recensait les auteurs prolétariens, paysans, ouvriers, employés, ainsi de suite, prolongé par le travail qu'a fait Michel Ragon, hein, et Thierry Maricourt aussi, hein, les deux avec une histoire de littérature prolétarienne pour Michel Ragon, publié chez Albin Michel, et une histoire... les auteurs prolétariens de Thierry Maricourt. Là, il y a aussi, il y a vraiment un complément qui est donné sur une période beaucoup plus récente, hein, avec des auteurs toujours vivants. Et ce que je peux annoncer, je vous ferai de manière beaucoup plus rigoureuse dans un mois, c'est des nouvelles plumes qui apparaissent dans la revue. Hein. C'est ça qui est très intéressant. C'est qu'on a un petit réseau assez autogéré, mais organisé et qui distille un peu, et ben, y a un thème qui connaît, qui fait connaître, et voilà, et pas mal d'auteurs qui viennent du nord de la France. On s'aperçoit que les gens qui écrivent aussi, qui témoignent, ça recoupe pas mal les bassins industriels d'hier, où il y a des choses assez intéressantes, et on est assez positif, on n'est pas... on s'applaudit pas, mais on trouve qu'il y a vrai, on est conscient qu'il y a un écho, et ça nous confirme dans le choix qu'on a fait, qui était un peu une aventure, hein, mais qui a vraiment des échos positifs, et on a un enrichissement, on découvre des gens qui nous enrichissent à chacun d'entre nous, quoi. Voilà. Donc je ne vais pas tarder plus longtemps. Nous avons évoqué l'Amérique latine. Eh bien, nous allons terminer avec le groupe que les plus anciens connaissent sans doute, Quilapayún. Hein, et le titre de la chanson, c'est Con el ama, excusez-moi pour mon espagnol, hein, Con el ama llena de banderas. Hein, c'est une chanson de Victor Jara. Je rappelle qui était Victor Jara. C'est un chanteur et musicien chilien qui, lors du coup d'État fasciste de Pinochet, où on avait incarcéré, regroupé par milliers les gens de l'extrême gauche révolutionnaire, du MIR, ou même les socialistes de gauche, les partisans de l'Allende, on les avait regroupés dans des stades. Mmh. Et comme châtiment suprême à Victor Rara, il lui avait tranché les mains au milieu du coupé les mains au milieu du stade, ce qui avait entraîné un mouvement dans le stade où étaient entassés les autres prisonniers. Voilà, on termine avec Quilapayún, un moment de la lutte du peuple, des peuples d'Amérique latine. Et on vous donne rendez-vous au mois prochain.
Oye brotar la primavera, que como tú soplando irán los vientos. Ahí enterrado cara al sol, la nueva tierra cubre tu semilla, la raíz profunda se hundirá y nacerá la flor del nuevo día, y nacerá la flor del nuevo día. A tus pies heridos llegarán las manos del humilde, llegarán. Al volar, apagará el fuego de los pobres, apagará el fuego de los pobres. Aquí, hermano, aquí sobre la tierra, el alma se nos llena de bandera.
Vous êtes bien à l'écoute de Radio Libertaire, l'émission « Et pourtant, elle existe » vient de se terminer. Vous pourrez la retrouver prochainement le jeudi 21 décembre, donc le troisième jeudi du mois prochain. Si vous voulez aussi réécouter les autres émissions en podcast, vous pourrez, ou si vous avez manqué le début de cette émission, les retrouver sur le site de Radio Libertaire en ayant le cheminement grille des podcasts, grille des émissions par jour. Vous cliquez sur le lien de l'émission. Voilà, quelques instants et bientôt l'émission Civis Pacem va débuter. Ne quittez surtout pas l'antenne, ne quittez pas l'écoute. Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. À bientôt pour le début de l'autre émission.
Mais il est peut-être déjà trop tôt.
Tiens, là la pluie. Ah, quel sale temps. Où est-il été? L'été, où est-il?
Oh là, mais que vois-je apparaître en regardant à ma fenêtre? Là, cette dame qui vole en voile de nylon et qui tient un bâton tout plein rempli d'étoiles. Si cette dame est flic, l'est au moins générale. Ah, bonjour, madame la fée.
Mon Dieu, qu'il ait bien élevé cet enfant. Je veux le récompenser. Que voudrais-tu? Formule un souhait, j'ai le pouvoir de l'exaucer.
Vrai?
Vrai?
Ben, je voudrais qu'on se paie du bon temps.
Du bon temps?
Du bon temps.
Qu'entends-tu par là, mon enfant?
Ben, je voudrais avancer l'été.
Été.
Qu'il fasse avant la...
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parole, un tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur